Soir Afrique, les infos à Washington.
John Lydon à la présentation 17h à Kinshasa. Bienvenue à ce journal. 15 personnes au moins sont été tuées dimanche lors d'affrontements entre groupes armés dans une zone de l'est de la République démocratique du Congo, théâtre de vives tensions ethniques depuis plusieurs semaines, a-t-on appris lundi auprès des autorités locales. Il y a eu des affrontements dans le village de Mukebera, dans la province du Nord Kivu. Selon les informations en ma possession, entre 15 et 30 personnes ont trouvé la mort, a déclaré à l'AFP Bogele Joa, administrateur du territoire de Lubero où ont eu lieu les combats. Selon lui, les combats ont été provoqués par l'attaque de miliciens Maïmaï Nandé contre le village de Mukeberwa tenu par les rebelles Hutu-Rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda. Au Tchad, libération aujourd'hui d'une vingtaine de manifestants qui avaient défilé samedi en N'Djamena pour protester contre la répression de la jeunesse avant d'être arrêtés. C'est ce qu'annonce le collectif des associations et mouvements de jeunes du Tchad Kamodjet. Le procureur de la République et le directeur de la police judiciaire sont venus à notre lieu de détention pour nous annoncer que nous sommes libres, a déclaré à l'AFP Hervé Pando, membre de l'une des associations des droits de l'homme, arrêté avec 22 manifestants. Côté gouvernement, le procureur de la République a affirmé, je cite, pour le moment, le ministère public n'a pas souhaité engager des poursuites contre les personnes arrêtées. Nous ne pouvions donc que les libérer, a-t-il ajouté. En RCA, troisième jour de la campagne électorale ce lundi dans le cadre du second tour de la présidentielle. Alors que les deux candidats vont à la rencontre des électeurs à Bangui et à l'intérieur du pays, les alliances politiques se multiplient en leur faveur. La bataille s'annonce donc serrée le 14 février prochain, jour du vote. Le point à Bangui avec Freeman Sipila.
À la différence de la campagne électorale pour les législatives, plutôt timide, la campagne pour le second tour de la présidentielle est bien mouvementée. Lancée le 6 février, les deux candidats n'ont pas attendu pour solliciter les suffrages de quelques 2 millions d'électeurs centrafricains. Alors que le candidat Faustin Archange Touadéra se lance à la conquête des électeurs de Bouar, Bozoum et Bossangwa, le même samedi, jour d'ouverture de la campagne électorale, le collectif des candidats à la présidentielle tient un grand meeting en sa faveur au point zéro au centre de Bangui. Jean-Baptiste Koba, candidat du mouvement social de l'évolution de l'Afrique noire, Messane, à la présidentielle du 30 décembre 2015.
Mais je vais vous dire une chose, Faustin Touadéra va nous rendre riches. Il va nous rendre riches d'abord nous-mêmes. Faustin Touadéra va nous rendre riches de sécurité.
De son côté, le candidat Nissé Georges Dologuélé a reçu dimanche un soutien de taille, celui du Rassemblement démocratique centrafricain de Désiré Bilal Zanga Kolimba, sorti troisième à l'issue du scrutin présidentiel du 30 décembre. Désiré Bilal Zanga Kolimba.
Lors du premier tour de ces élections, le RDC et moi avions défendu, conformément aux idéaux de notre parti, l'homme de Centrafrique. Aujourd'hui, le peuple a décidé. Nous en avons pris acte. Voilà pourquoi le Rassemblement démocratique centrafricain a décidé de dire oui. Le RDC dit oui au Rassemblement et à Nissé Georges Dologuélé.
Un autre soutien non négligeable à Anissé Georges Dologuélé, l'appui de 5 groupements syndicaux des travailleurs. Dans les Jeux d'Alliance, le mouvement de libération du peuple centrafricain de Martin Zigélé, 4e suite au premier tour de l'élection présidentielle et le cadre de concertation élargi des plateformes, partis, associations politiques et personnalités politiques indépendantes ont exprimé leur soutien à Faustin Archange Touadéra. La bataille s'annonce donc très serrée pour le second tour du 14 février. L'autorité nationale des élections appelle les deux partis à l'apaisement. Sa présidente, Marie-Madeleine Coué-Ornaillère, invite les différents candidats au respect du code de bonne conduite.
Les scrutins du 14 février 2016 constituent l'une des solutions de sortie de crise de la République centrafricaine, notre beau pays. À ce titre, nous devons tout mettre en œuvre pour consolider la paix et les valeurs de vivre ensemble. L'autorité nationale des élections en appelle donc à votre esprit de civisme, de discipline et de non-violence pour que la campagne se déroule dans un climat apaisé.
Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Toujours à propos de la Centrafrique, Amnesty International, dans un nouveau rapport rendu public ce lundi, dit craindre un risque de continuation des violences meurtrières et de l'instabilité. L'Organisation de défense des droits de l'homme, basée à Londres, demande de tirer les conséquences des lacunes de la MINUSCA. La mission de l'ONU est de songer à les combler de toute urgence. Au Congo-Brazzaville, deux leaders d'opposition de la plateforme IDC Frocad se sont déclarés ce week-end candidats au prochain scrutin présidentiel. Il s'agit de Guy Brice Parfait Kolela, ancien ministre de la fonction publique, et de Clément Miraza, candidat malheureux à la présidentielle de 2009. Les deux hommes répondent ainsi à la stratégie de multiples candidatures pour espérer battre le président Denis Sassou Nguesso, qui fait encore mystère autour de ses intentions de briguer un nouveau mandat.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Procès de l'ex-chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo et du chef de milice Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale de La Haye. Le président du tribunal a présenté aujourd'hui ses excuses pour la divulgation par erreur la semaine dernière de l'identité de plusieurs témoins à charge dont les noms devaient rester secrets. Le juge Kuno Tarfezer, visiblement embarrassé, a souligné à l'ouverture de l'audience ce lundi qu'il parlait au nom de la CPI tout entière. Rappelons que le procureur avait divulgué vendredi dernier les noms de plusieurs témoins alors que les micros retransmettant le procès sur la chaîne publique de la CPI étaient restés ouverts. Un incident de la plus haute gravité, a reconnu le juge Tarfuser. Après ses excuses, les trois juges composant le jury se sont réunis à huis clos avec les représentants de l'accusation pour décider de la suite du procès des deux accusés. Une enquête a été ouverte sur la divulgation des noms des quatre témoins à charge concernés. Afrique de l'Ouest, arrivée aujourd'hui à Ouagadougou de l'Australienne Joseline Elliott, relâchée samedi grâce à l'aide du Niger après avoir été kidnappée avec son mari médecin à la mi-janvier au Burkina Faso par des djihadistes liés à Al-Qaïda. L'ex-otage australienne déclare vouloir retrouver son mari et rester au Burkina Faso. Anne Alberson.
Madame Elliott et son mari, Arthur Kenneth Elliott, avaient été enlevés à Djibo, dans le nord du Burkina, à la frontière avec le Mali et le Niger, dans la nuit du 15 au 16 janvier, lors d'une action apparemment coordonnée. Cette nuit-là, à Ouagadougou, la capitale burkinabé, des attaques djihadistes contre le café-restaurant Cappuccino, les hôtels Splendide et Yibi et un bar avaient fait 30 morts et 71 blessés. Dans la journée du 15 janvier, une attaque contre des gendarmes avait également fait 2 morts à Tinakoff, dans le nord. L'enlèvement du couple australien avait été revendiqué par Ansar Dine, groupe djihadiste de l'ex-chef rebelle touareg malien Iyad Aghali, au nom de l'émirat du Sahara. Selon des spécialistes des milieux islamistes, cette appellation désigne une branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les époux Elliott vivaient au Burkina depuis 1972 et étaient engagés dans des opérations humanitaires en faveur des populations de la province du Soum et celles des pays voisins du Mali et du Niger. Le docteur Arthur Kenneth Elliott reste encore aux mains de ses ravisseurs.
Au Mali, la plateforme pro-gouvernementale et la coordination des mouvements de la Zawad sont tombés d'accord pour cohabiter pacifiquement à Kidal, fief des anciens rebelles Touareg. Des centaines de membres de la plateforme, une coalition de groupes armés soutenant le gouvernement malien, sont entrés sans violence le 2 février à Kidal. Ces deux groupes se sont battus plusieurs fois dans le passé malgré l'accord de paix conclu après des mois de négociations à Alger.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Égypte Human Rights Watch a accusé aujourd'hui le ministre égyptien de la Justice d'appeler au massacre d'opposants islamistes après qu'il ait souhaité à la télévision la mort des dizaines de milliers de frères musulmans. Le 28 janvier, le ministre de la Justice Ahmed El Zine a déclaré à une chaîne de télévision qu'il ne serait pas satisfait tant que 10 000 frères musulmans ne seraient pas tués pour chaque membre des forces de sécurité ayant péri dans un attentat. L'Organisation des droits de l'homme basée à New York a appelé le président Abdel Fattah al-Sisi à condamner les propos de son ministre. Et puis, le Parlement algérien a adopté hier un projet de révision de la Constitution qui prévoit le rétablissement de la limitation du nombre de mandats présidentiels à 2. Fin de ce bulletin d'information présenté par John Lydon. Merci pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. Bonsoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.